France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et nous serons dès l'ouverture du journal au tribunal correctionnel de Paris où Gérard Depardieu a été condamné ce matin à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. On s'intéressera également à la tournée au Moyen-Orient de Donald Trump que le président américain espère riche en contrats économiques gargantuesques. Nous irons aussi en Chine où le président Xi Jinping a lui promis des milliards d'euros de crédit pour le développement de l'Amérique latine. Avec notre invité, on parlera des tensions à la fois géopolitiques, économiques, climatiques sur les marchés des matières premières. Enfin, on parlera de cinéma avec l'ouverture ce soir du Festival de Cannes. Après avoir été battus par les vents de la polémique médiatique, les volets verts se sont donc provisoirement refermés ce matin après que Gérard Depardieu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur deux femmes, Amélie, 54 ans, et Sarah, 34 ans, respectivement décoratrice et assistante réalisatrice lors du tournage du film de Jean Becker. C'était en 2021. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place au tribunal correctionnel. Le comédien n'était d'ailleurs pas présent à l'audience. Dans son réquisitoire et à l'issue des 4 jours de procès, la culpabilité de l'acteur ne faisait déjà aucun doute pour le procureur de la République, ce que confirme Anne le jugement de ce matin.
Oui, pour le président du tribunal, en effet, Gérard Depardieu ne semble pas avoir appréhendé ni la notion de consentement, ni les conséquences délétères de son comportement. Il commence par évoquer l'agression sexuelle subie par Amélie, décoratrice sur le tournage des Volets Verts, précisant qu'elle a toujours été constante dans ses déclarations, à l'inverse de Gérard Depardieu. Il n'est pas plausible que l'acteur ait été contraint d'attraper les hanches de la victime pour ne pas glisser, insiste le magistrat, qui rappelle que l'acteur était assis au moment de l'agression. Il y a également 2 témoins directs, contrairement à l'agression subie par Sarah, assistante réalisatrice sur le tournage, mais sa version a également été constante et elle en a parlé immédiatement à des proches, explique le président, qui ajoute « Elle a envoyé un message sur le groupe WhatsApp familial pour parler de ses petits soucis avec Gérard qui lui touche les fesses et la poitrine. » Les faits sont donc parfaitement établis. L'acteur est condamné à 18 mois de prison avec sursis, soulagement sur le banc des parties civiles, d'autant plus que le tribunal critique la défense offensive de Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, une défense masculine et agressive, dénoncée à l'intérieur du tribunal et dans une tribune d'avocats dans la presse. Le président retient le préjudice de victimisation secondaire. Gérard Depardieu devra verser 1 000 euros supplémentaires aux victimes. Amélie, déjà très satisfaite du jugement apprécié, elle revient sur les circonstances de cette audience.
Nous avons vécu 4 jours d'enfer la dernière fois pour une espèce d'aménagement horaire dû au problème de santé de Monsieur Depardieu qui s'avère être finalement en très bonne santé puisqu'il est en train de faire un tournage quelque part aux Açores. Je suis d'autant plus en colère par la façon dont M. Assous nous a traités pendant ces 4 jours.
Jérémy Assous qui a tout de suite annoncé sa volonté de faire appel. À partir du moment où vous êtes mise en cause aujourd'hui dans une affaire dite d'agression sexuelle, vous êtes automatiquement condamné, a-t-il justifié.
Merci Anne Fauquemberg en direct du tribunal correctionnel de Paris ainsi qu'à Romain Lucas pour les moyens techniques. Ils sont venus de toute la France pour un autre monde. Des salariés d'ArcelorMittal sont réunis depuis ce matin en région parisienne avec l'espoir encore de dissuader la direction française du sidérurgiste de supprimer plus de 600 postes. Le CSE central convoqué aujourd'hui sera l'occasion d'un premier round de discussion sur les contours du plan social à venir.
5 des 8 syndicats représentatifs dans la fonction publique appellent eux à la mobilisation et à la grève aujourd'hui.
Ils réclament de meilleures rémunérations et surtout ils dénoncent l'imagination au pouvoir. 40 milliards d'euros d'économies prévues par le gouvernement dans le budget 2026 avec des conséquences certaines sur l'emploi, notamment après la fusion annoncée d'un tiers des agences et opérateurs de l'État.
Midi passé de 34 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Pour son tout premier déplacement à l'étranger depuis son investiture, hormis sa visite imprévue aux obsèques du pape François à Rome, Donald Trump a donc choisi d'annoncer la couleur de l'argent. Et pour ce voyage d'affaires, quelle meilleure destination que les monarchies du Golfe, lesquelles attendent le président américain, les bras chargés de cadeaux, 600 milliards de dollars pour l'Arabie Saoudite, pratiquement autant pour le Qatar et plus du double promis par les Émirats Arabes Unis. Ou comment se recentrer sur la diplomatie économique plutôt que de prétendre résoudre les graves crises sécuritaires qui embrasent la planète. Donald Trump a donc commencé sa tournée ce matin par l'Arabie Saoudite, comme il l'avait fait d'ailleurs en 2017 pour son premier déplacement en tant que locataire de la Maison Blanche. Sauf que depuis, Christian Chéneau, le prince héritier du royaume, Mohamed Ben Salman, a lui bien changé.
L'homme fort de l'Arabie Saoudite n'est plus un pestiféré, un paria, comme l'avait qualifié l'ancien président américain Joe Biden au moment de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. MBS s'est assagi après des premières années très agitées quand il avait déclaré la guerre au Yémen, décidé un blocus contre le Qatar ou encore rafler les princes et les VIP du royaume au Ritz-Carlton. Aujourd'hui, il a fait de l'Arabie un acteur incontournable sur la scène diplomatique mondiale, omnubilé par ses grands projets pour relancer l'économie nationale. Il a pris conscience de sa puissance. Il se voit même en faiseur de paix. Les récents pourparlers sur l'Ukraine à Riyad sont pour lui une forme de consécration. Le jeune prince fougueux, qu'avait rencontré Donald Trump lors de son premier mandat, a aujourd'hui normalisé les relations avec l'Iran. Désormais, il s'oppose à des frappes contre la République islamique. La paix avec Israël n'est plus un tabou. Il est prêt à franchir le pas en échange d'un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie. MBS à l'oreille de Trump, dont il espère une aide pour un programme nucléaire civil et la livraison de chasseurs F-35 et de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne. Il a surtout promis 600 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Je demanderai d'arrondir ça à 1000 milliards, a fait savoir Donald Trump, qui considère l'Arabie Saoudite comme une vache à lait pour créer des emplois en Amérique.
Alors, il est un pays qui ne voit pas forcément d'un très bon œil cette tournée du président américain au Moyen-Orient. C'est Israël. Donald Trump n'a d'ailleurs pas prévu de faire escale à Jérusalem, pourtant son premier allié dans la région. Faut-il en déduire que Washington pourrait désormais donner la priorité aux pétromonarchies du Golfe et à leurs promesses d'investissement mirobolants au détriment de l'État hébreu? En clair, faire des affaires plutôt que la guerre, seule certitude. Ces dernières semaines, les États-Unis ont agi en maître du jeu sur plusieurs dossiers sans se coordonner avec Israël. Dernier exemple en date, les négociations avec le Hamas pour obtenir la libération du seul otage vivant de nationalité américaine encore retenu dans la bande de Gaza. L'événement hier aura d'ailleurs offert un rare répit aux habitants de l'enclave palestinienne puisque dès ce matin, l'armée israélienne a aussitôt repris ses bombardements.
Le moratoire sur les droits de douane sino-américains annoncé hier a été salué par un feu d'artifice à Wall Street.
Et ce quand bien même l'euphorie des marchés n'est pas nécessairement le meilleur indicateur des défis à venir, d'autant que la suspension temporaire de la majeure partie des droits de douane prohibitifs que les deux géants était mutuellement imposé, n'est que la première étape du long chemin qui doit encore conduire à un accord, pour autant d'ailleurs qu'il voit effectivement le jour. Sans compter que le président Xi Jinping, lequel s'exprimait ce matin à l'occasion d'une importante réunion avec les représentants de plusieurs pays latino-américains, n'a pas hésité à fustiger un contexte international marqué, je cite, par la confrontation et le harcèlement, une critique à peine voilée, Sébastien Berriot, des foucades de son homologue américain.
Voilà qui tranche avec les déclarations d'un Donald Trump apaisant, évoquant un climat désormais amical avec la Chine et annonçant un appel au téléphone avec Xi Jinping à la fin de la semaine. Alors non seulement Pékin ne confirme pas cet appel, mais en écoutant le président chinois ce matin devant les chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine et de la Caraïbe, personne n'a ressenti ce climat amical. Xi Jinping, au contraire, a tenu des propos particulièrement offensif, dénonçant le harcèlement et la confrontation. Aucun pays n'était cité, mais cela visait évidemment les États-Unis. Quelques minutes plus tard, la diplomatie chinoise a enchaîné, évoquant, je cite, « la loi du plus fort qui obsède certaines puissances majeures ». Et Xi Jinping a ensuite ouvertement lancé les hostilités sur l'Amérique latine, traditionnelle zone d'influence et de conquête des États-Unis, où Donald Trump accuse la Chine de vouloir s'implanter. Eh bien, le président chinois a justement confirmé, appelant les chefs d'État sud-américains à resserrer leurs liens avec Pékin face aux États-Unis. La désescalade sino-américaine dont on commençait à parler hier soir semble encore très loin.
Alors, on évoquait un instant la dégradation de la situation à l'international et tout particulièrement depuis qu'il était une fois l'Amérique de Donald Trump. Et c'est encore ce que vient confirmer la publication ce matin du 39e rapport du cercle Cyclope sur les matières premières ou comment les ruptures géopolitiques ont des conséquences pour les marchés. Le piétinement sourd des légions en marche, c'est d'ailleurs ce vers tiré d'un poème de José Maria de Heredia racontant la défaite de Rome face à Hannibal qu'ont choisi les auteurs du dit rapport comme sous-titre. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, le président de Cyclope, Philippe Chelemin, économiste et professeur émérite à Paris-Dauphine. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Catherine Pétillon. Bonjour Catherine.
Bonjour Thomas, bonjour Philippe Chelemin. 2024 était déjà une année de conflits, d'incertitudes géopolitiques et puis Donald Trump a été élu. Alors son élection, c'est pour les matières premières aussi un choc majeur?
Moins qu'on pourrait le penser dans un premier temps. 2024 avait été, du point de vue des matières premières, une année presque ouvrez les guillemets, calme. Dans la mesure où pendant les guerres, le business continuait, le pétrole, les céréales continuaient à aller sur les marchés mondiaux, presque sans problème. Les stars de l'année 2024 n'avaient rien à voir avec la géopolitique, c'était votre petit déjeuner, c'était le café et le cacao. Avec Trump, les choses n'ont pas si profondément changé que cela, puisque qu'est-ce qu'a fait Trump ? Bien entendu, il y a eu Liberation Day, il y a eu des tarifs, etc. L'impact sur les marchés des matières premières, ça a été quand même plutôt à la baisse sur les prix de l'énergie, tout simplement parce que l'impact trumpien se traduit sur la croissance économique, donc sur la demande, et puis qu'il avait fait de telles demandes, en particulier à l'Arabie Saoudite, d'augmenter la production de pétrole, que finalement ils y sont arrivés, et donc le prix du pétrole a baissé. Pour le reste, le zone qui est la plus concernée aujourd'hui par la dynamique trumpienne, celle sur laquelle le dossier est revenu en haut de la pile, c'est le dossier des métaux.
Et justement, ce marché est particulièrement conflictuel. Extraire plus, extraire en eau profonde, c'est des tendances de fond. Comment finalement l'arrivée de Trump a accéléré les besoins de chaque État de sécuriser ses approvisionnements ?
Disons que un des rares mérites de Trump est celui d'avoir finalement mis le doigt là où ça faisait mal. C'est bien la révolution énergétique, enfin la transition énergétique. C'est bien d'imaginer qu'on va se passer des énergies fossiles. Le problème, c'est qu'on ne se passera pas d'un certain nombre de métaux qui sont devenus indispensables dans la transition énergétique. Alors non seulement d'ailleurs les métaux dits stratégiques ou rares, comme vous voudrez, donc ceux dont on a beaucoup parlé, mais aussi des métaux à la limite plus traditionnels de notre quotidien. Le métal stratégique par excellence aujourd'hui, c'est tout simplement le minerai, le cuivre, puisque le cuivre, il est indispensable au stockage, au transport de l'électricité, qui revêt un rôle central dans la transition énergétique.
Mais très concrètement, finalement, comment l'arrivée de Trump est venue exacerber les tensions, notamment autour de cet approvisionnement-là ?
Ben, tout simplement parce que bon, Trump, j'allais presque dire de manière un peu primaire, c'est probablement exagéré, confond stratégique rare, etc., et que il a poursuivi la politique mise en place par Biden, qui est de redonner une certaine autonomie aux États-Unis, mais plus largement à l'Occident, dans sa transition énergétique. Et donc, il s'est rendu compte, avec un peu de retard, mais comme tout le monde, que nous avions, du point de vue métallurgique, donc du point de vue des métaux, une énorme dépendance vis-à-vis de la Chine, qu'il s'agisse des terres rares, mais qu'il s'agisse de nombre de petits métaux stratégiques. Dans votre téléphone portable, il y a du germanium, il y a de l'indium, il y a du gallium. Dans les munitions que vous n'utilisez pas, mais que beaucoup d'autres utilisent en ce bas monde, il y a de l'antimoine, etc. Et de tous ces métaux, la dépendance qui est la nôtre vis-à-vis de la Chine.
Mais vous dites que dans le fond, finalement, les circuits commerciaux se sont jusqu'à présent adaptés au conflit, par exemple. Pourquoi ils ne s'adapteraient pas à la situation actuelle, à l'arrivée de Trump ?
Tout simplement parce que les circuits commerciaux, je vous parlais des grandes matières premières, celles qui sont diffusées à l'échelle mondiale, que ce soit le pétrole, les céréales, le soja. Il y a des changements, d'ailleurs, dans les circuits commerciaux. Les États-Unis perdent des parts de marché sur les grains par rapport au Brésil, par exemple. Mais, par contre, sur tous ces petits métaux, surtout ces métaux stratégiques, la dépendance à la Chine est une dépendance lourde, c'est une dépendance profonde, et il faut se souvenir que le temps de la mine, que le temps de la métallurgie, ce sont des temps extraordinairement longs. Il faut 20 ans pour développer une mine, il faut 10 ans pour développer une usine métallurgique, et finalement, ce dont nous raisonnons aujourd'hui sur ce que sera le monde, peut-être en 2050.
Du coup, il est encore temps de faire des prévisions, en un mot.
Alors, l'art des prévisions, vous savez, c'était Galbraith qui disait que on avait inventé les économistes pour que les astrologues ne se sentent pas trop isolés. C'est vrai qu'aujourd'hui, faire des prévisions, c'est extraordinairement difficile. La seule réalité pour nous aujourd'hui, et ça, c'est l'héritage de Trump, c'est l'incertitude.
Merci Philippe Chalmin d'avoir évoqué ce 39e rapport sur les matières premières du Cercle Cyclope, cercle que vous présidez.
Et merci également à vous, Catherine Pétillon, ainsi qu'à Jérémy Tuile pour les moyens techniques. Tandis que l'Europe vient de célébrer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la liste des conflits ouverts ou larvés qui ensanglantent la planète reste longue. Un rappel aussi déprimant que nécessaire et qui vient en partie expliquer ce record alarmant. Le nombre de déplacés dans le monde a augmenté de 50% au cours des 6 dernières années pour atteindre 83,4 millions de personnes fin 2024. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'Observatoire des situations de déplacements internes, en cause notamment les événements climatiques extrêmes et bien plus encore la très grande majorité de ces déplacements forcés, Jérémy Lanche, est due au conflit. C'est l'autre histoire de la violence.
Dans 90% des cas, ce sont les conflits qui provoquent le déplacement. Premier concerné, le Soudan, avec 11,6 millions de déplacés. À l'échelle de la planète, c'est comme si toute la population de l'Allemagne vivait aujourd'hui loin de chez elle à cause de la guerre, explique Alexandra Bilac, la directrice de l'IDMC.
L'augmentation des chiffres s'explique par plusieurs facteurs, mais le facteur principal, c'est effectivement le fait que de nouvelles crises viennent s'ajouter chaque année à des situations de déplacement interne qui durent depuis plusieurs années. Donc c'est effectivement le cas en RDC, au Soudan, même en Ukraine.
Mais il n'y a pas que les conflits. Les catastrophes comme les inondations ou les cyclones ont provoqué près de 46 millions de déplacements internes en 2024. Là aussi, c'est un record. Et pour la première fois, ce sont les États-Unis qui ont enregistré le plus de mouvements. La faute aux ouragans Helene, Milton et aussi aux incendies en Californie. Le paradoxe, c'est que Donald Trump souhaite supprimer la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des urgences.
C'est FEMA qui permet de générer des alertes, d'évacuer les personnes exposées et bien sûr de fournir l'assistance humanitaire qui est nécessaire dans ces situations. Sans le type d'informations que produisent des agences comme FEMA, la gestion de ces catastrophes sera beaucoup plus difficile.
Et l'administrateur intérimaire de la FEMA, pourtant nommé par Donald Trump, a été remercié la semaine dernière, un jour après avoir affirmé au Congrès que démanteler l'agence était selon lui une très mauvaise idée.
Faut-il y voir déjà un premier effet du succès spectaculaire enregistré il y a quelques jours à peine aux élections locales par le parti anti-immigration Reform UK? Toujours est-il que le gouvernement travailliste britannique a dévoilé hier une feuille de route aux mesures présentées comme radicales pour réduire l'immigration légale, quitte donc à essayer de faire se rapprocher dans une volte-face spectaculaire, une rhétorique associée à la droite dure d'un côté et la vision historique de son parti de l'autre.
Et c'est dans ce monde déchiré que s'ouvrira ce soir le Festival de Cannes.
De parler encore d'un autre affrontement, heureusement beaucoup plus feutré, celui-là, sorte de bataille des tapis rouges et autres tenues de soirée, celui qui oppose aujourd'hui le festival sur la croisette à la Mostra de Venise. Alors, si le premier reste l'événement culturel le plus médiatisé au monde, le second a pour lui d'avoir été la toute première compétition internationale dédiée au 7e art, et pour le reste, c'est Fiona Mogadam qui nous raconte.
L'an dernier à Venise, Lady Gaga et Joaquin Phoenix étaient venus présenter en avant-première le film Joker et le duo George Clooney-Brad Pitt, le film Wolf. Chaque année, les festivals tentent de décrocher de grandes affiches en exclusivité et les plus grands noms du cinéma qui y sont associés. Cannes comme Venise attirent tout autant les médias du monde entier, plus de 4000 journalistes accrédités sur la croisette contre 3000 sur le Lido. Une concurrence qui s'affiche aussi dans la course aux Oscars, chacun communiquant sur le nombre de prix obtenus par ses films présentés en compétition. Cette année, par exemple, 6 films présentés à la Mostra ont reçu 17 nominations pour les Oscars, mais c'est Cannes qui l'a emporté. 9 prix ont été décrochés par des films sélectionnés à Cannes contre 5 pour la Mostra, qui a tout de même rappelé qu'en 9 éditions des Oscars, 8 prix de meilleure actrice ou meilleur acteur ont été remportés par des films sélectionnés à Venise. Pour les professionnels en marge des festivals, les négociations se font surtout sur le marché du film. Venise a lancé son Venice Production Bridge il y a 13 ans. Il rassemble désormais 3000 professionnels. Le marché du film à Cannes reste le plus important au monde avec 15 000 professionnels venus de 150 pays, 200 stands et quelques 4000 films ou projets en développement qui y sont discutés.
On termine avec un mot du temps là-haut pour cet après-midi. Instable sur le nord-ouest ainsi que du centre-est à l'extrême sud-est. Partout ailleurs, le ciel sera plus clément malgré quelques nuages bourgeonnants. Quant aux températures, elles seront comprises entre 15 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.